Bonjour à tous. Ouvrons nos Bibles en Galates, chapitre 3. Donc Galates, chapitre 3, et je vais lire la totalité du chapitre. Galates, chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet, par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse. Donc le titre de notre message ce matin est « Pourquoi donc la loi ?» Pourquoi donc la loi ? Il est tiré en fait du chapitre que nous venons de lire au verset 19. Pourquoi donc la loi ? Cette question, c'est une des questions les plus importantes que s'est posée la chrétienté au travers des siècles. Et c'est une des plus troublantes aussi que puisse se poser un chrétien dans son parcours spirituel. La question du rôle de la loi était au cœur des débats qui ont secoué le monde chrétien du temps de la Réforme, et le monde en totalité même. Mais c'est aussi une question qu'un chrétien ne peut éluder, au risque de passer à côté de la vérité sur le salut. Et cette question est troublante pour le chrétien. D'un côté, il entend qu'il est proclamé par Paul dans ce chapitre que nous venons de lire, comme dans tant d'autres passages d'ailleurs, il dit au verset 11 que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi est évident, justifié étant cette expression qui veut dire que nous sommes sauvés et nous recevons la justice de Christ. Et de l'autre côté, Le chrétien entend également le psalmiste qui s'écrit « Combien j'aime ta loi ?» Psaume 119, verset 97. D'une part, nous entendons par exemple en 1 Corinthiens 15, cette phrase « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. » Donc il semble être très négative envers la loi. Et d'autre part, on entend Jésus qui dit en Matthieu 5, 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc il y a apparemment beaucoup de contrastes qui peuvent être troublants pour un chrétien dans sa compréhension. On va regarder la réponse que Paul apporte à cette question dans ce chapitre. Pourquoi donc la loi ? Et d'abord quelques mots sur l'épître. Donc l'épître aux Galates, et en particulier le chapitre 3, cet épître mériterait évidemment un traitement sur de nombreux messages. D'ailleurs, il y a quelques années, Albert avait fait une exposition de cet épître. Aujourd'hui, ce que je veux faire, en fait, c'est survoler, je dirais, à très haute altitude ce chapitre, afin de voir le mouvement d'ensemble et de comprendre le raisonnement de Paul, surtout par rapport à cette question qui est l'objet donc de mon message, pourquoi donc la loi ? Donc on pense que Galates est la première lettre que Paul ait écrite. Elle était destinée à des églises qui étaient en Galatie, qui était une région de la Turquie actuelle. Et ces églises ont été fondées par Paul lors de un voyage missionnaire qui est décrit en Actes au chapitre 14. Or, peu de temps après que Paul ait fondé ces églises, il ait quitté la région, qu'il soit revenu en fait à Antioche, qui était son église de base, Paul apprend que des hommes qu'on appelle les judaïsants enseignent ce qu'on lit en Actes 15 au verset 1. Je lis pour vous. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et donc cet enseignement avait atteint les églises de Galatie. Et donc c'est le sujet de la lettre de Paul, que Paul leur écrit. Et la lettre est écrite avec passion. Paul dictait les autres lettres, celle-là manifestement il a écrit de sa propre main. Son message est empreint d'une grande émotion et d'une profonde indignation, c'est presque explosif. Et le sujet de l'indignation de Paul, c'est que ces hommes qu'on appelle donc les judaïsants ont mêlé la loi à l'évangile. Ils ont mêlé la loi à l'évangile. Ils ont osé ajouter la circoncision à la foi pour l'obtention du salut. Et ça, Paul ne peut pas le tolérer. Et le ton de sa lettre est celui d'une très sévère réprimande envers les Galates, les chrétiens Galates, parce que eux, ils ont toléré ce message. Alors quelqu'un dira, mais ce n'est qu'un détail. Ceux qu'on appelle les judaïsants étaient des gens qui avaient cru en Jésus-Christ, c'était des juifs. La circoncision n'a rien de mal en elle-même. N'est-il pas vrai que, par exemple, on voit dans les Actes que Paul lui-même a fait circoncire Timothée ? C'est vrai. Mais ce à quoi Paul s'attaque, ce n'est pas la circoncision en elle-même, qui est, je dirais, complètement neutre, mais c'est le fait que la circoncision soit une chose nécessaire au salut, en plus de la foi en Jésus-Christ. C'est ce « en plus », le fait que ces gens ajoutent quelque chose à la foi en Jésus-Christ, en plus pour obtenir le salut. C'est le respect d'un élément de la loi juive comme étant une condition indispensable au salut, en plus de la foi en Jésus-Christ. Et si vous regardez aussi, toujours dans Acte 15, au verset 5, on voit que ces judaïsants, en fait, ils avaient en tête plus que la circoncision, puisque là, le texte dit que ils voulaient exiger l'observation de la loi de Moïse. Quelques-uns du parti des pharisiens, dit le verset 5 de Acte 15, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, cette loi de Moïse, elle couvrait un ensemble d'aspects, des aspects rituels comme la circoncision, des aspects cérémoniels avec tout ce culte compliqué du temple et tous ces sacrifices qui sont décrits dans Lévitique. Il y avait aussi toutes ces fêtes, il y avait des aspects alimentaires, il y avait des aspects civils, très importants, un peu comme nous on a le code civil ou le code pénal en France pour régir notre pays. Il y avait aussi ces aspects-là dans la loi de Moïse. Évidemment, il y avait des aspects moraux qui sont synthétisés dans les 10 commandements. Or, ce que Paul soutient dans ce chapitre, dans le chapitre qu'on vient de lire, c'est que le salut, c'est-à-dire la justification ne dépend aucunement du respect de ces différents aspects de la loi. Il dit même au premier chapitre que celui qui veut imposer ce respect de la loi comme une condition nécessaire au salut, en plus de la foi, eh bien il dit qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Ça veut dire qu'il aille en enfer. Et au chapitre 2, verset 16, Paul a dit ceci, « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » On ne peut pas être plus clair. Et donc, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, c'est que Paul est en train de dire que votre justification n'est pas basée sur votre respect des 10 commandements. Ou, pour parler dans un langage plus familier, Paul est en train de dire qu'on ne va pas au ciel parce qu'on a fait des bonnes actions. C'est ça que Paul dit. Et je pense que ça doit en surprendre parmi vous. Mais on va comprendre pourquoi Paul dit ça. Et Paul enseigne que le fait que vous soyez lavé de vos péchés et que la justice de Christ vous soit imputée ne dépend pas de votre respect de la loi morale, mais c'est basé uniquement sur votre foi en Jésus-Christ. Alors quelqu'un dira, mais Paul, en fait, dans ce chapitre, ne parle pas de toute la loi morale, il ne parle pas des 10 commandements, il parle juste de la circoncision. Évidemment qu'on n'est pas sauvé par la circoncision. Mais pour Paul, on comprend dans le contexte, dès qu'on s'attache à un aspect de la loi pour le salut, ici la circoncision, en fait, toute la loi, on doit respecter tous les autres. C'est ce qu'il dit dans la même lettre, en 5.3, chapitre 5, verset 3, « J'affirme à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Et c'est quoi la loi tout entière ? Eh bien, si vous regardez en 5.14, vous avez cette phrase, Paul, qui dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, c'est-à-dire les 6 derniers commandements. Et donc, Paul va démontrer dans ce chapitre que le salut n'est pas fondé sur la loi, mais sur la foi seule. Et pour faire cela, il va développer 3 arguments. Il développe 3 arguments. Le premier argument, il concerne l'expérience de conversion des Galates. Pour savoir, et il leur pose la question de savoir si elle était basée sur la foi ou sur le respect de la loi. Et ça, on le voit dans les 5 premiers versets. Et Paul les réprimande sévèrement et leur dit au verset 3, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Et puis au verset 5, il dit un peu la même chose, « Celui qui vous accorde l'Esprit, c'est-à-dire Dieu, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Et dans les deux cas, ce sont des questions rhétoriques qui appellent vraiment comme réponse, évidemment, par la prédication de la foi. Le salut s'accompagne toujours du don de l'Esprit. Et Paul fait appel à leur expérience du salut. Il leur dit, est-ce que c'est par la pratique des œuvres de la loi ou bien en écoutant la prédication de la foi que vous avez reçu l'Esprit ? Et si vous regardez le livre des Actes, vous avez plein de passages, plusieurs passages de conversion. Ils sont toujours fondés sur la prédication de l'Évangile, toujours. Vous avez le sermon de Pierre à la Pentecôte. Vous avez le sermon de Pierre chez Corneille, le centurion. Vous avez l'eunuque éthiopien qui lit Ésaïe 53. Vous avez Lydie, la marchande de pourpre. Le geôlier de Philippe. Toutes ces personnes ont été sauvées par la prédication de la foi. C'est-à-dire par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ et pas par les œuvres de la loi. C'est donc le premier argument. C'est l'expérience de conversion des Galates, et c'est aussi notre expérience de conversion à nous. Le deuxième argument porte sur Abraham. Après donc avoir fait appel à leur expérience du salut, Paul développe cet argument qui est fondé sur Abraham. Abraham, c'était un éleveur nomade, païen, qui a vécu donc environ 2000 ans avant Jésus. Et tout à coup, très soudainement en fait, très brutalement, Dieu apparaît. Il surgit dans la vie de cet homme et il se met à lui faire des promesses. Des promesses qui sont unilatérales et sans condition. La promesse est répétée à plusieurs reprises, notamment en Genèse 12, en Genèse 15, en Genèse 17. La promesse est celle d'une bénédiction et d'une postérité. Et d'une bénédiction qui sera aussi sur cette postérité. Et Abraham croit à cette promesse de Dieu malgré son grand âge. Malgré la stérilité de sa femme, Abraham fait confiance à Dieu. Et sa foi lui est imputée à justice, nous dit le texte au verset 6. Et on voit la même chose qui est décrite en Romains chapitre 4. Et donc Abraham est justifié par la foi. Mais ce n'est pas seulement Abraham qui est justifié par la foi. Ce sont aussi tous les païens qui ont une foi semblable à celle d'Abraham. Ça, vous le voyez au verset 8. Et puis là, en verset 16, Paul explique que cette postérité d'Abraham, en fait, c'est postérité au singulier. Donc, dans le texte que j'ai lu, c'était descendance. Dans d'autres versions, c'est dit postérité. Donc, cette postérité, cette descendance au singulier, c'est Jésus-Christ. Et en effet, Jésus était israélite par sa mère. C'était donc un descendant d'Abraham, car Abraham est l'ancêtre de l'ensemble de la nation d'Israël. Ensuite, au verset 26 et 29, Paul explique que si nous avons la foi en Christ, nous sommes à Christ. Si nous avons la foi en Christ, nous appartenons à Christ, nous sommes à Christ. Et étant à Christ, qui est la postérité d'Abraham, alors nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham, non pas selon une filiation physique, mais selon une filiation spirituelle. Et étant descendants d'Abraham, nous avons droit à l'héritage d'Abraham. Et donc, nous sommes héritiers des promesses de bénédiction qui ont été faites à Abraham. Le verset 29 dit que nous sommes héritiers selon la promesse. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce concept d'héritage et de bénédiction. Ce n'est pas le but de mon message. Mais, en quelques mots, évidemment, ce concept est magnifique. Et, par exemple, nous avons Pierre qui dit en fait que l'héritage, il parle de l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Donc cet héritage, c'est la vie éternelle avec Dieu. Cet héritage est directement lié au fait que par Jésus-Christ, nous devenons, dit Romains chapitre 8, verset 17, enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Galates dit que nous sommes fils de Dieu, au verset 26. Romains 8, 23 parle de notre adoption. Nous avons vu ce matin, j'ai lu aussi Galates 4, qui parle également de notre adoption. Il y a donc une promesse de salut qui trouve son origine en Abraham, qui est le modèle du croyant, justifié par la foi, et qui reçoit le premier la promesse d'un héritage, et cette promesse se transmet à nous. Cette promesse est transmise à nous au travers des âges, par notre appartenance à Jésus-Christ. Alors, maintenant, pourquoi Paul nous parle de tout ça ? Il en a d'ailleurs aussi parlé assez abondamment en Romains chapitre 4. Il nous parle de tout ça afin de montrer que la loi n'a rien à voir avec ça. Elle n'a rien à voir avec le salut. Et c'est ce qu'il explique au verset 17 et 18. Il dit la loi, elle est intervenue longtemps après Abraham. Il dit 430 ans. Et il dit la loi ne peut pas... Parce que Dieu a fait un... On verra ce que Dieu a fait, mais il dit la loi, elle ne peut pas abroger la promesse de Dieu. Elle ne peut pas l'annuler, cette loi qui vient après la promesse de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne va pas regarder en détail, mais je vais vous en dire deux mots. En Genèse 15, Dieu a confirmé sa promesse d'une façon assez étrange. Il a endormi Abraham, il l'a plongé dans un profond sommeil, et puis il avait dit à Abraham de tuer des animaux. Donc Abraham avait tué des animaux, qu'il avait coupés en deux. Et puis il a donc endormi Abraham dans un profond sommeil, et Dieu est passé au milieu des animaux, sous la forme d'une fournaise fumante et de flammes. Drôle de, étrange rituel, n'est-ce pas ? Mais en fait, ça fait référence à une pratique qui existait dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, dans cette région, manifestement. Quand on voulait ratifier un contrat, quand deux personnes voulaient ratifier un contrat, ils coupaient des animaux en deux et ils passaient au milieu des animaux. Et ça voulait dire que s'ils ne respectaient pas le contrat, ils devaient recevoir le même sort que les animaux, c'est-à-dire être tués. Et donc Dieu, qui évidemment ne peut pas mourir, eh bien Dieu, il s'applique à lui-même ce rituel pour montrer que sa promesse est irrévocable. Et donc la loi qui vient 430 ans après, elle ne peut pas révoquer cette promesse qui est faite avec tant de solennité et qui est aussi d'ailleurs mentionnée en Hébreux chapitre 6. Donc voilà pour le deuxième argument. Il est impossible que la loi révoque une promesse qui est antérieure de Dieu. Le troisième argument, il se trouve au verset 10 à 12. Au verset 10 à 12. Et dans ces versets, Paul explique que celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi, est maudit. Tout. « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et Paul dit des choses similaires en Romains 3:19 par exemple. Il dit « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Et Jacques, dans son épître, dit également que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Chapitre 2, verset 10. Or, nous sommes incapables de constamment respecter tous les commandements de la loi toute notre vie. En fait, nous avons même beaucoup de mal à les respecter un petit peu, n'est-ce pas? Qui a jamais manqué de respect envers ses parents? Qui n'a jamais menti? Et qui peut dire toute sa vie qu'il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Ce que Jésus a présenté comme étant le premier et le plus grand commandement dans Matthieu 22, 32. La loi est implacable. Si on veut être sauvé par la loi, on doit la respecter parfaitement, et ça nous est impossible. C'est pourquoi la loi ne sauve pas. Mais ce qu'elle fait, au contraire, c'est que la loi maudit. C'est ce que nous dit Paul ici. La loi maudit. La loi, Paul dit dans 2 Corinthiens 3:9 que le ministère de la loi, c'est un ministère de condamnation. Et dans 2 Corinthiens 3:7, il dit que c'est un ministère de la mort. Et ceci est mis en scène, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, dans Exode 20. Ceci est mis en scène de façon spectaculaire dans Exode 20. Exode 20, c'est le chapitre où les 10 commandements sont donnés. Et juste après que les 10 commandements aient été donnés par Dieu, au verset 18, on lit ceci. Donc c'était au Sinaï. Il y avait une manifestation de Dieu, et tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » La loi révèle la sainteté de Dieu et la perfection de ses exigences. Et nous sommes incapables de le supporter parce que nous ne sommes pas capable de respecter cette loi. Et quand l'homme voit son propre péché et qu'il voit la sainteté de Dieu, quand il voit sa propre imperfection et la perfection de Dieu, l'homme se sait condamné. Et c'est l'expérience d'Ésaïe en Ésaïe chapitre 6. Lorsqu'il est mis en présence de la sainteté de Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était dans le temple et c'est là que les anges disaient « Saint, 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 l'Éternel ». Et il est devant Dieu et alors Ésaïe, terrifié, Ésaïe qui était un homme, je dirais un homme bien, qui était quelqu'un de probablement un très grand croyant, et il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et quand on voit cela, quand on voit ce rôle de malédiction de la loi, on comprend la futilité de la tentative des pharisiens d'être acceptés sur la base de leur respect de la loi, parce que c'est bien ce qu'ils voulaient faire. Ils n'avaient rien compris. Et les judaïsants qui expliquent aux Galates que pour être sauvés, ils doivent croire à la loi, croire en Jésus-Christ et respecter la loi de Moïse, ils étaient du parti des pharisiens. On l'a vu au verset 5 de acte 15. Ces pharisiens croyaient qu'ils pouvaient respecter la loi au point d'être justifiés par elle. Mais le sermon sur la montagne, dans ce sermon, Jésus nous explique que c'est pas suffisant pour voir le royaume de Dieu, il faut que notre justice soit supérieure à celle des scribes et des pharisiens qui pourtant essayaient de la respecter le plus précisément possible. On a donc vu 3 arguments de Paul contre l'idée selon laquelle la pratique de la loi mosaïque doit être ajoutée à la foi en Jésus-Christ pour être sauvée. Le premier argument, c'est que la conversion est le résultat non pas de la pratique de la loi, mais de la prédication de la foi. La prédication de l'Évangile. Le deuxième argument, c'est que la loi est intervenue longtemps après que Dieu ait sauvé Moïse et qu'il lui ait fait une promesse irrévocable dont nous sommes les bénéficiaires par Jésus-Christ. Enfin, le troisième argument, c'est que la loi n'a pas pour but de sauver, mais en fait, elle a pour but de maudire. Je pense que cet argument est vraiment très fort et doit être rappelé. Alors pourquoi donc la loi ? Pourquoi donc la loi ? Pourquoi Dieu a-t-il été donné la loi à Moïse 430 ans après Abraham. Et en Galates 3:19, Paul répond ainsi, avec cette formule simple, elle a été donnée à cause des transgressions. Transgression, c'est un autre mot pour péché. Et quand Abraham a été sauvé, il n'a pas été fait mention de la loi ni du péché. C'est vrai qu'Abraham a été circoncis, mais c'était 14 ans après qu'il ait cru. Abraham a été sauvé parce qu'il a fait confiance à Dieu, il a cru Dieu, il a cru à sa promesse, et nous sommes sauvés de la même manière. Parce que nous faisons confiance à Dieu, si nous faisons confiance à Dieu. Mais il n'en reste pas moins que pour Abraham, comme pour nous, le besoin du salut provient du péché. S'il n'y avait pas jamais eu de péché, s'il n'y avait jamais eu de chute au jardin d'Éden, il n'y aurait pas besoin de salut, il n'y aurait pas besoin de justification. Et c'est-à-dire que nous n'aurions pas eu besoin de recevoir de l'extérieur une justice qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de Christ, puisque nous aurions été justes en nous-mêmes. Et donc la loi vient à cause du péché. Et Paul, dans d'autres passages, développe ce concept, le rôle de la loi. Notamment en Romains 5, 21, il dit que la loi est intervenue pour que le péché abonde. La loi est intervenue pour que le péché abonde. Et en Romains 3, 20, il dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc en fait, ce que fait la loi, c'est que la loi, c'est comme une lumière qui met en évidence le péché. Vous imaginez un endroit obscur avec plein d'horribles vermines, et vous mettez une lumière dans cet endroit, et tout à coup, ils apparaissent. C'est ça qu'a fait la loi. La loi, elle met en évidence le péché, elle le caractérise. Avant la loi, le péché était là, c'est ce que dit Paul en Romains 5 également, il dit le péché était là, mais il n'était pas visible. Il n'était pas défini. La loi, elle définit le péché, elle le met en lumière, et elle donne à l'homme la connaissance de son péché. Et l'homme ne peut plus échapper. Romains 3, 19 nous dit que sa bouche est fermée. La loi lui montre qu'il est un fils irrespectueux, un menteur, un adultère, un meurtrier. Et comme l'explique Jésus dans le serment sur la montagne, en Matthieu 5, il n'y a pas besoin de commettre physiquement ces choses. Il suffit de les avoir commis dans son esprit, dans sa pensée, dans son cœur, pour être coupable. Et alors le péché est mis au grand jour, et l'homme connaît son péché, il se voit coupable devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à David. C'est ce qui est arrivé à David. David avait commis ce terrible péché de faire tuer cet homme, Uri, le Héthien, et il avait pris sa femme, Bathsheba, qui avait eu un enfant de lui. Et au bout de 9 mois, Dieu a envoyé le prophète Nathan à David pour lui montrer son péché. David ne s'était pas repenti pendant ces 9 mois, mais Nathan, Dieu a parlé par Nathan, il lui a montré son péché, et David a reconnu son péché. Il a écrit un grand psaume de repentance, qui est le psaume 51. Car la connaissance du péché mène à la repentance. Maintenant, pour parvenir à cette repentance, il faut la connaissance de la loi, mais il faut aussi l'œuvre de Dieu par son esprit, qui convainc de péché. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Eux, ils pensaient que la loi était un instrument, un outil donné par Dieu pour se justifier soi-même. Ils n'avaient pas la conviction de péché, ils n'étaient pas éclairés par l'esprit. C'est ce que nous lisons en 2 Corinthiens 3, si vous voulez bien tourner vos Bibles dans 2 Corinthiens 3. Au verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. 2 Corinthiens 3, verset 14. Donc il parle en fait des juifs, et il parle manifestement des pharisiens ou des juifs croyants dans leur religion. Mais ils sont devenus durs d'entendement, verset 14 de Corinthiens 3. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et lors de notre conversion, le voile est ôté. Nous ne voyons plus la loi comme un moyen de nous justifier, en faisant des bonnes actions qui vont nous permettre d'aller au ciel, n'est-ce pas ? Mais plutôt comme un instrument de condamnation et de malédiction. C'est l'œuvre de l'Esprit avec la loi. L'Esprit utilise la parole pour nous montrer qui nous sommes. Et alors nous sommes comme Ésaïe, nous crions « Malheur à moi, je suis perdu !» Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ou nous crions comme le publicain au temple « Ô Dieu, sois apaisant envers moi, un pécheur !» Luc 18, 13. Mais cette angoisse devant la loi, cette terreur de la loi, n'est pas en elle-même le salut. Si on reste là, c'est plutôt du désespoir. C'est plutôt du désespoir. C'est d'ailleurs l'expérience de Martin Luther. Avant sa conversion, c'était un homme profondément désespéré. Il avait tout essayé. Il s'était fait moine pour être sauvé. C'était un homme qui faisait des confessions de 6 heures. Pendant 6 heures, il confessait ses péchés. Jusqu'à ce que son confesseur lui dise « Mais confessez quelque chose de sérieux, un meurtre, un adultère. » Mais il confessait toutes les peccadilles de tout ce qu'il avait fait. Donc cette angoisse n'est pas le salut. Le fait de se voir pécheur, c'est une étape. Mais si on en reste là, on est dans le désespoir. C'est, je pense, très bien décrit, effectivement, l'angoisse du peuple juif au mont Sinaï. Quand ils sont confrontés à la loi, ils ne peuvent pas le supporter. Mais vous l'avez aussi dans Apocalypse 6. Je trouve très frappant ce passage où il y a la colère de l'agneau et où les hommes, le monde verra Christ qui viendra en jugement. Et là, ils seront terrifiés devant. Et là, ils verront la loi. Non pas comme un moyen de justification, mais comme une chose qui les condamne. Et il s'écrie, et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister ?» C'est ça l'effet, n'est-ce pas, de la colère sur les hommes quand ils voient réellement quelle est l'exigence de Dieu en termes de sainteté. Mais dans notre passage, il y a un verset qu'on n'a pas regardé et qui est fondamental, c'est le verset 13. Paul en a vu, il a dit aux Galates que Christ leur a été peint à leurs yeux comme crucifié. Et comment Christ ayant été peint à leurs yeux comme crucifié, ils peuvent se retourner vers la loi. Et au verset 13, Paul dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et quiconque ». Quiconque est pendu au bois. Cette malédiction de la loi qui est si terrifiante pour nous, Christ, l'a prise sur lui en totalité à la croix. Il est devenu malédiction pour nous. C'est ça l'évangile. Il est impossible que nous soyons justifiés par la loi. Au contraire, tout ce que fait la loi dans la justification, c'est qu'elle nous condamne, mais elle nous montre notre besoin de Christ. C'est magnifiquement décrit dans la fin du chapitre. Paul dit au verset 19 que la loi a été donnée jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Ce matin, nous avons beaucoup parlé de la venue de la postérité, n'est-ce pas ? La postérité, c'est la venue de Jésus-Christ. Et donc la loi a été donnée jusqu'à ce que vienne Jésus-Christ. Et ce que dit Paul ici a une vérité sur le plan, à la fois sur le plan historique et sur le plan de l'expérience personnelle du chrétien. Sur le plan historique, Israël a été gardé sous la loi jusqu'à la venue de Christ. Ils étaient gardés sous la loi. Il utilise le terme ici, un pédagogue. Un pédagogue dans le monde de cette époque, c'était pas quelqu'un qui était très doué pour enseigner les gens. C'était un esclave qui, dans les familles riches probablement, avait pour mission de surveiller le fils de famille. Et chaque fois qu'il faisait une bêtise, il lui tapait dessus. Il avait tout pouvoir pour le mettre sur le droit chemin. C'était ça le rôle de la loi pour les Juifs. Et les Juifs, ils étaient gardés par la loi. La caractérisation du péché par les 10 commandements et le besoin d'expiation du péché par des sacrifices répétés imparfaits, toutes ces choses qu'il y avait dans la loi pointaient les Israélites vers le besoin d'un sauveur, vers le besoin d'un agneau qui enlève le péché du monde, et non pas ces sacrifices qui étaient répétés et imparfaits. Et d'ailleurs, peu de temps après la venue de Christ, c'est frappant, peu de temps après la venue de Christ, en 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Le système sacrificiel de la loi s'est arrêté, et l'Église n'était plus soumise à la loi de Moïse. Et d'ailleurs, on lit au verset 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Et ce matin, on a chanté que la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Donc c'est ça qui est dépeint ici. Mais la loi joue un rôle similaire sur le plan personnel. Elle joue un rôle similaire sur le plan personnel. La loi nous terrifie. Elle met devant nous les terreurs du jugement et elle nous mène à Christ. Qui a pris sur lui le jugement, qui a pris sur lui la malédiction. Et là où la loi nous dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi », là où la loi nous dit ça, Christ nous dit comme au paralytique « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et là, la loi nous condamne comme cette femme prostituée qui était venue pleurer sur les pieds de Jésus pendant ce repas, en Luc chapitre 7. Là, la loi condamne, ou les pharisiens condamnaient cette femme par la loi. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et à ceux qui, par crainte de la mort, comme dit Hébreu, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et une fois que la postérité est venue, la loi a joué son rôle, et elle s'efface derrière Christ. Et une fois que la loi nous a menés à Christ, nous sommes convertis, la loi cesse de jouer son rôle de condamnation et de malédiction. Alors évidemment, cette prédication soulevait et soulève encore beaucoup d'objections aujourd'hui, de la part de ceux qui ont gardé le point de vue des judaïsants, selon lequel le salut est, par la foi en Christ, plus la pratique des œuvres de la loi. Et c'est vrai que c'est en particulier l'enseignement de l'Église catholique. Et moi, chaque fois que je parle de ça avec des proches catholiques ou des amis catholiques, leur réponse est toujours la même. C'est trop facile. Un salut comme ça, c'est trop facile. C'est un enseignement qui pousse à l'immoralité, qui pousse au laisser-aller. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament enseigne la pratique des bonnes œuvres, etc. Et c'est l'opposition majeure qui était faite à Martin Luther en son temps, d'ailleurs dont la pensée a été exposée de façon très claire dans un livre qui est le commentaire de l'Épître aux Galates qu'a écrit Martin Luther. Je vais juste citer une réponse que Luther donne à ces objections. Luther dit ceci, nous ne débattons pas sur le fait de savoir si nous devons faire de bonnes œuvres, ou si la loi est sainte, juste et bonne, ou si nous devons ou pas la respecter. Ce n'est pas le sujet. Notre sujet concerne la justification et de savoir si la loi justifie ou pas. Nos ennemis ne veulent pas répondre à cette question. Ils ne veulent pas faire de distinction entre les différents sujets, mais ils se contentent de crier qu'il faut faire des bonnes œuvres et que la loi doit être respectée. Nous le savons bien. Qu'il faille faire des bonnes œuvres, nous le déclarerons le temps venu. Mais pour l'instant, nous parlons de la justification et en la matière, nous rejetons les bonnes œuvres dans lesquelles nos adversaires mettent tellement d'énergie, car ils enlèvent la gloire de Christ et l'attribuent aux bonnes œuvres. Ils enlèvent la gloire de Christ et l'attribuent aux bonnes œuvres. Fin de citation. Qu'une fois sauvé, le chrétien doit faire de bonnes œuvres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et nous le proclamons ici dans cette église. Combien de fois on l'a dit ? Et on le dit encore. Paul a dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a un autre passage dans Tite où il dit que ceux qui ont cru doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et le fait qu'un chrétien continue dans une vie de péché est très grave. Pourquoi ? Parce que maintenant il est uni à Christ. Et chaque fois qu'il pêche, il emmène Christ avec lui. Et d'ailleurs, il y a de gros doutes qu'une personne qui se dise chrétienne et qui continue dans une vie de péché soit réellement chrétienne. Et peut-être que ce que je viens de dire en concerne certains parmi nous. Et que la loi de Dieu, et les 10 commandements en particulier, surtout les 10 commandements pour ce qui nous concerne, parce que le reste a été, je dirais, abrogé, mais que la loi de Dieu en particulier, les 10 commandements, soient une expression de la volonté de Dieu et que le chrétien doit faire tous ses efforts pour la respecter, bien sûr, bien évidemment, c'est pour ça que le psalmiste s'écrit « Que j'aime ta loi ». Mais en ce qui concerne la façon d'être sauvé, les bonnes œuvres et le respect de la loi n'y sont pour rien. Si vous attribuez ne serait-ce qu'une petite partie de votre justification à vos bonnes œuvres, alors vous enlevez de la gloire à Christ. Et c'est ce que dit Luther. Votre justification, votre vie éternelle dépendent exclusivement de la grâce de Dieu qui vous est accordée, la grâce de Dieu qui vous a donné la foi en Christ. Et par cette foi, la justice de Christ vous a été imputée et vous êtes sauvés pour l'éternité. Et celui qui ajoute quoi que ce soit à l'évangile, Paul dit au premier chapitre qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, qu'il aille en enfer. Et on a dans la parole un pur modèle de justification par la foi seule. Et on pourrait ouvrir nos Bibles, c'est en Luc 23. C'était le brigand crucifié sur la croix. Cet homme-là, franchement, je ne vois pas bien quelles bonnes œuvres il pouvait apporter pour sa justification. C'était un criminel, il était sur la croix. Une vie gâchée. Mais manifestement, comme le montre le passage, la loi avait fait son œuvre de condamnation dans son cœur et il avait compris son besoin de Christ. Et on lit à partir du verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, donc injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et que cette mort de celui qu'on a appelé le bon larron, que ces dernières paroles soient un puissant encouragement pour les âmes troublées ce matin par la condamnation de la loi. Que ce soit un encouragement à mettre votre confiance en Christ seul pour votre justification. Christ a porté à la croix toute la malédiction de la loi qui vous était destinée alors qu'il était lui-même sans péché, et il est ainsi devenu, dit la parole, l'auteur d'un salut éternel. Et je vais citer en conclusion juste une phrase d'un hymne qui a été écrit par un homme qui s'appelait Augustus Toplady. C'est un chrétien anglais du XVIIIe siècle, il a écrit un cantique qui s'appelle « Rocher des siècles ». Je ne pense pas vraiment qu'on l'ait en français, mais c'est un cantique très célèbre pour les anglo-saxons. Et il a dit cette phrase-là, « Les terreurs de la loi et de Dieu, les terreurs de la loi et de Dieu, je n'ai plus rien à voir avec elle, car l'obéissance et le sang de mon Sauveur couvrent toutes mes transgressions. » Voilà. Amen. Seigneur, merci pour ton salut. Merci Seigneur pour ton Fils qui a porté la malédiction à notre place alors qu'il était sans péché. Et il a été fait malédiction pour nous, Seigneur. Seigneur, puissons-nous comprendre ces choses. Puisses-tu consoler, Seigneur, les âmes troublées ce matin et leur montrer. Puisses-tu être dépeint devant eux comme crucifié. Puisses-tu guider tout un chacun dans la vérité. Puisses-tu enlever l'erreur de nos cœurs. Oui, Seigneur, puisses-tu vraiment nous montrer la vérité. Afin que chacun d'entre nous soit ancré dans la vérité. Puisses-tu sauver, Seigneur, aujourd'hui encore des personnes qui sont condamnées par la loi et leur montrer que tu as pris le péché, la malédiction de la loi sur toi. Je te prie, Seigneur, en ce nom de ton Fils. Amen.